Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Dans le retour de Radio X. L'enquêteur du paranormal. Christian Page.
Tout le monde connaît la fameuse poupée Annabelle, moi. On a pu voir d'ailleurs dans le film The Conjuring, puis là, Louis puis Mel, cette semaine, durant la pause, m'ont jasé d'un dossier mystérieux avec la poupée. Puis là, je me suis dit, hey, ça serait le fun d'en parler avec Christian Page, le fameux cas de Dan Rivera, enquêteur paranormal réputé, qui faisait une tournée avec la poupée Annabelle. Puis à un moment donné, M. Rivera, il se sentait pas super bien, fait qu'il disait, ah, je vais retourner à ma chambre d'hôtel, on va aller voir ce qui se passe en Pennsylvanie. Il retourne dans sa chambre d'hôtel. Quelques heures plus tard, les autorités l'ont retrouvé et il était mort, décédé exactement, sans signe de suspect, puis surtout sans la fameuse poupée Annabelle qui n'était nulle part. Puis le Rivera était un membre important là, du groupe fondé par les Warren qui parcourait le pays pour raconter l'histoire d'Annabelle. Puis finalement, cette tournée aura été sa dernière. Une mort qui, on va se le dire, est assez particulière. Et pour en parler, il est là, en chair et en os, Christian Page. Bonjour!
Bonjour, Jordan.
C'est mystérieux tout ça, Christian.
Ben, ça dépend encore une fois comment on aborde la question. J'ai encore l'impression que je vais jouer le rabat-joie, là. Donc, oui, tu mentionnes la mort de Rivera. Il avait 54 ans. Hein. Il était membre de la New England Society for Psychic Research. Et il faut quand même le dire, c'est une organisation qui a été fondée dans les années 50 par le couple Ed et Lorraine Warren, qui sont devenus, qui étaient déjà assez connus aux États-Unis dans les cercles qui s'intéressaient aux phénomènes paranormaux, mais qui sont devenus vraiment célèbres avec, comme tu l'as mentionné, toute cette franchise des films La Conjuration, The Conjuring, et des dérivés, parce qu'il y a, eu La Poupée Annabelle, il y a eu aussi The Nun, hein, La Nonne, qui a été, qui fait partie également des produits dérivés, qui un peu sont satellitaires à l'affaire de, Conjuring. Et comme tu le mentionnes, donc en juillet dernier, il y a ce Dan Rivera qui va décéder dans une chambre de Gettysburg, en Pennsylvanie. Gettysburg, d'ailleurs, qui est un endroit le très connu des amateurs de mystères et de fantômes, parce qu'il y a eu une bataille très importante durant la guerre de sécession à Gettysburg. Okay. Et on raconte que les champs de bataille de Gettysburg seraient hantés par les fantômes tombés au champ de bataille. Et donc, à ce moment-là, on a ce Rivera qui se trouve sur place. Il a avec lui la poupée Annabelle, ce qui montre déjà qu'elle n'est pas aussi maléfique qu'on le disait. Hein. Les Warren aimaient bien faire une espèce de spectacle autour de l'histoire d'Annabelle. On la présentait, elle était dans une espèce de boîte vitrée dans leur musée,
ah oui.
Un musée qui se trouve à Monroe, au Connecticut, qui est en fait une dépendance de la maison des Warren. Et là, elle disait, oh, c'est très mystérieux, ne touchez pas à la boîte. On avait même une petite affichette sur la vitre de la poupée. De la boîte où se trouvait la poupée qui disait toucher à la vitre ou ne pas ouvrir en toutes circonstances parce que la poupée est démoniaque. Et là, voilà qu'on a Dan Rivera qui se promène avec la poupée dans ses bagages. Et en fait, la veille, il l'avait présentée à des enfants au Gettysburg Orphanage, hein, à l'orphelinat de Gettysburg.
Puis,
aux enfants.
Christian, le look de la poupée, là, c'est un look de peluche un peu. Là. Ça n'a pas l'air super avec ça là, parce qu'on voit beaucoup la mode Annabelle horreur un peu. Là, avec les gros yeux puis les coupures, là, mais c'est pas ça. Là.
Tout à fait. La vraie histoire autour d'Annabelle, elle est très nébuleuse. Hein? Donc, oublions un instant là, tout le drama du cinéma. Là. L'histoire de la poupée Annabelle, je te la résume, je pourrais en parler pendant deux heures, mais grosso modo, en 1970, selon la version des Warren, hein, parce que c'est eux qui racontent cette histoire-là, 1970, une femme se trouve dans un magasin d'antiquité. Elle va acheter la poupée pour sa fille, qui, elle, suit des cours pour devenir infirmière. C'est une poupée qu'on appelle une poupée qui est très célèbre aux États-Unis, c'est une Raggedy Ann doll, hein, une poupée de chiffon là, hein, avec les yeux ronds, le nez en triangle et les cheveux roux là, avec des morceaux de laine. Hein.
Genre de poupée que ta grand-mère pourrait faire.
Et tu as tout à fait raison, parce que c'est une poupée qui était très célèbre dans la première moitié du 20e siècle aux États-Unis, et parce qu'elle faisait partie, elle était l'héroïne de toute une série de contes pour enfants. Donc, on avait commercialisé cette fameuse poupée qui a connu un énorme succès. Et donc, cette dame se trouve dans un magasin d'antiquité, toujours selon la version des Warren. Elle va acheter la poupée pour sa fille Donna, qui a 24 ans. Et puis, Donna partage sa chambre avec Angie, hein, une autre étudiante également en cours d'infirmière, et elle lui offre la poupée. Et là, à partir de là, des phénomènes mystérieux vont se produire dans l'appartement. La poupée se met à se balader dans l'appartement. Le matin, les filles quittent pour aller à leur cours. Quand elles reviennent le soir, la poupée a changé de pièce. Le petit ami de Angie va être agressé par la fameuse poupée à un moment donné.
Mais ils n'ont pas pensé au début que ça aurait pu être un mauvais coup de quelqu'un dans
Oui, au début, ils pensent à ça, et là, ouais. Ils vont laisser la poupée. À un moment donné, ils pensent même que des gens vont pénétrer dans leur appartement en leur absence pour déplacer la poupée. Et là, éventuellement, hein, d'où vient ce fameux nom d'Annabelle? Ben, éventuellement, on est rendu en 1971, les filles vont faire appel à une médium, et la médium va leur dire que la poupée, elle est possédée, ben, en fait, occupée par l'âme d'une fillette qui s'appelle Annabelle Higgins, qui aurait été retrouvée morte sur un terrain vague voisin à l'âge de 7 ans, quelques années plus tôt. Évidemment, il n'y a aucun archive policière qui permet de documenter ça. Et donc, éventuellement, ils vont accepter que la poupée soit le cocon de l'âme d'Annabelle Higgins. Mais comme les manifestations se poursuivent et les filles sont de plus en plus inquiètes par la présence de cette poupée, surtout que le petit ami d'Angie, hein, non seulement il est agressé, mais à un moment donné, la poupée aurait essayé de l'étrangler, elle va le graffiner dans le dos. Et là, donc, éventuellement, ils vont faire appel aux Warren. Les Warren vont débarquer sur place et là, ils vont vite conclure qu'en fait, la poupée n'est pas l'habitacle, n'est pas le réceptacle de l'âme d'Annabelle Higgins, mais elle est simplement manipulée par des forces démoniaques pour faire croire à l'histoire d'Annabelle Higgins. Et là, les Warren vont faire un rituel d'exorcisme. Et à l'issue de ce rituel, ils vont récupérer la poupée qu'ils vont ramener et qui se trouve depuis dans leur musée. Toute cette histoire-là, il faut quand même le dire, là, elle ne repose que sur une histoire racontée par les Warrens dans un livre qui est en fait un peu une biographie ou une autobiographie quand on sait le rôle que les Warrens ont joué dans le livre est écrit par un certain Gerald Brittle.
Mais est-ce qu'à l'époque, il était connu? C'est à partir de là qu'il y a vraiment ça.
Ouais, en fait, ils sont connus dans les cercles. Hein, ouais. Ils essaient de se faire un capital de popularité. Okay. Ils vont publier donc ce livre de Demonologist. Et dans ce livre, un chapitre est consacré à l'histoire d'Annabelle. Mais les Warren ne sont que les seuls témoins de ça. Hein. Quand on leur pose des questions, qui étaient les filles, ils vont d'ailleurs donner des prénoms qui varient dans les versions qu'ils offrent. La version, par exemple, de cette histoire-là dans The Demonologist, ils présentent d'autres prénoms que ceux qu'ils vont utiliser plus ultérieurement en disant que la fille s'appelle Donna, que son amie s'appelle Angie, que le garçon agressé s'appelle Lou. Ils vont changer en fait ces prénoms-là en disant eux-mêmes que ce sont des faux prénoms. On ne retrouvera jamais ces gens-là. Là. Ça peut être une histoire qui est inventée là, entièrement par les Warren. Et on ne serait pas surpris parce que les Warren, même s'ils jouissent d'une grande popularité avec les films de Conjuring, moi, pour les connaître personnellement, là, ben en fait, personnellement, j'ai pas vraiment connu Ed Warren. Les premières fois où je suis allé à la rencontre de Lorraine Warren, Ed était déjà très malade. Donc, je ne l'ai que entrevu. Ouais. Il est en convalescence et puis éventuellement, il est décédé. Donc, je ne l'ai qu'entrevu. Mais j'ai rencontré plusieurs fois Lorraine Warren. J'ai fait des documentaires pour la télé québécoise, notamment Dossier Mystère, où j'ai consacré des volets à certaines enquêtes qu'ils avaient menées. Et leurs enquêtes, là, évidemment, les gens diront, oui, mais t'es méchant, Christian. Mais leurs enquêtes, là, très souvent, ça se résumait à un post-it collé dans le fond d'un dossier. Là. C'était l'enquête des Warren.
Comme et les chasseurs ensuite, de fantômes du Québec, là, des fois.
Tout à fait. Et les Warren, ce sont des gens qui arrangeaient la vérité pour se faire de l'argent. N'ayons pas peur des mots. La grande motivation des Warren était l'argent. Et c'était essentiellement autour de ça. Ils avaient trouvé le moyen de capitaliser autour de ces histoires. Et les histoires qu'ils ont offertes, que ce soit dans leurs livres ou qu'on retrouve adaptées au cinéma, ces histoires-là sont à peu près la moitié d'entre elles reposent sur des faits véridiques, mais entièrement déformés. Et on peut supposer que l'autre moitié est entièrement inventée par les Warren. Donc, c'est pas une source très crédible. Quant à notre histoire de notre pauvre Dan Rivera, qui décède à l'âge de 54 ans, tu l'as mentionné, la poupée n'était pas dans sa chambre à ce moment-là. Ouais. Et ce Dan Rivera avait un long historique de problèmes problèmes cardiaques. Et le résultat...
C'est un point qu'on ne mentionne pas dans beaucoup d'articles, ça.
Non, et éventuellement, le résultat de l'autopsie a été publié en septembre 2025, donc à peu près là, 2 mois après la mort de l'individu. Et là, on a tout le rapport du coroner qui montre bien que notre Dan Rivera souffrait depuis une vingtaine d'années de problèmes très sérieux, de problèmes cardiaques très sérieux, et éventuellement, il était emporté par ce mal dont il souffrait depuis de nombreuses années. Là. Donc, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit de très mystérieux. Le fait qu'il ait été membre de New England Society for Psychic Research, qu'il faut quand même le dire, à l'époque des Warren, parce que les Warren sont décédés maintenant, hein, ils sont repris par leur beau-frère, en fait, qui est le mari de la fille du couple Warren. Maintenant, on fait une espèce de tourner autour de ça, on capitalise. Mais à l'époque où les Warren dirigeaient le centre, même si ça avait un grand nom, là, de New England Society for Psychic Research, ben c'était eux deux tout seuls. Il y avait à peu près personne d'autre. Là. Donc, c'est souvent dans... Et on retrouve le même profil avec les associations de chercheurs de fantômes. Hein. C'est souvent des noms très ronflants. Là. C'est l'Association internationale de recherche sur les phénomènes paranormaux.
Fait que là, en partant, on se donne une belle crédibilité. Là.
Voilà. Mais c'est deux gars avec des bottes de caoutchouc aquatico. Là, tu sais, là, bon, quand même, soyons sérieux. Et les Warren, ça a été, sans être méchant ni vulgaire, là, c'était des machines à fric, ces gens-là. C'est la seule chose qui les motivait, c'était l'argent qu'ils pouvaient faire avec ça. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai écrit dans un de mes livres à ce sujet-là, j'avais parlé avec eux, parce que les Warren utilisaient toujours un peu la même structure. Hein. Ils n'écrivaient pas les livres eux-mêmes. Ils faisaient appel à un ghostwriter, sans mauvais jeu de mots, là, et ils écrivaient, mais leur nom figurait toujours sur la couverture. Hein. Donc, c'était en gros le nom de l'auteur fantôme, et ensuite le nom des Warren en dessous. Et j'ai parlé avec l'un d'entre eux à un moment donné, alors que j'écrivais une histoire qui avait été couverte par les Warren. Et lui, il dit, quand j'ai accepté d'écrire ce contrat-là pour les Warren, il dit rapidement, j'ai rencontré les témoins et quand je me suis rendu compte que ces gens-là avaient visiblement des problèmes mentaux, j'en ai reparlé à Ed Warren et lui, cet auteur-là, comme il écrivait déjà des livres d'horreur un peu à la Stephen King, quand il se confie à Ed Warren en disant à Ed, écoutez, je peux rien faire avec cette histoire-là, ces gens-là souffrent de problèmes mentaux. Ed Warren y a répondu, votre travail à vous, c'est d'écrire des livres fantastiques. Il dit, toutes les gens qui viennent nous voir sont tous des gens qui ont des problèmes mentaux. Fait que prenez ce que vous pouvez et écrivez-nous une bonne histoire qui fait frémir. Donc, wow. Ça se résume à ça. Donc, on voit un peu les coulisses de ça. C'est un peu embêtant. J'ai parlé à d'autres auteurs, d'autres gens qui ont été impliqués, et notamment la famille Thériault, à une histoire de possession d'un Québécois qui vivait aux États-Unis, Maurice Thériault, qui aurait été possédé par le démon et que les Warren auraient exorcisé. Ben, la famille Thériault racontait que les Warren ont utilisé la même structure, c'est-à-dire qu'ils ont engagé un auteur, La Salandra, pour écrire le livre qui s'appelle Evil Harvest ou quelque chose comme ça. Donc La Salandra est l'auteur. Les Warren et les Thériault figurent sur la couverture parce qu'ils ont signé au contrat d'édition. Mais très rapidement, dès que le livre a été en chantier, les Warren, comme les Thériault avaient des problèmes financiers, c'était des gens pauvres, démunis, les Warren ont racheté pour 1 500 $ leurs droits d'auteur, ce qui ne leur donnait plus le droit de regard sur le livre et ni la sortie du livre. Donc, l'histoire qu'ils ont racontée, les Thériault n'avaient plus aucun droit de regard là-dessus. Les Warren pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Donc, on voit que quand on regarde un peu en coulisses, on découvre, j'oserais pas dire des escrocs, parce que bon, mais on est à la limite. Là, on flirte évidemment avec la malversation et des histoires tout à fait inventées.
Et arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que tu as déjà eu affaire à eux ou à des documents que tu devais recevoir, que tu attendais, que tu n'as jamais reçu finalement.
Tout à fait, tout à fait. les enquêtes que j'ai couvertes et que les Warren avaient été impliqués, là je rencontrais, c'était toujours Lorraine Warren parce que Ed était malade à ce moment-là. Et là c'était, je vais sortir le dossier. Là, dans le dossier, bien, comme je l'ai mentionné, c'était un post-it dans le fond d'un dossier. Ouais. Et là, Lorraine Warren me disait, le dossier, je dois l'avoir placé ailleurs. Je vais fouiller et je vais vous envoyer tout ça, les vidéos cassettes, les enregistrements. Finalement, on recevait jamais rien. Et quand je relançais, on ne l'a pas trouvé, on l'a perdu. Mais bon, je suspecte que ces documents-là n'ont jamais existé. Là. Les Warren abordaient une histoire avec l'idée, quel est le matériel que je peux tirer de ça et qu'est-ce que je peux inventer qui va faire que l'histoire va bien se vendre. Dans le cas d'une histoire qui a servi d'ailleurs de canevas pour le film La Conjuration 2, qui s'intitule La hantise de Henfield, dans ce cas-là, les Warren n'ont été sur place que 15 minutes. Hein? Ils ont trouvé le moyen de faire un film avec ça. Ils sont arrivés là, il y avait déjà des enquêteurs qui étaient sur place et un des enquêteurs de la Society for Psychical Research à Londres, parce que Anfield, c'est une banlieue là, populaire et de Londres, populiste, je devrais dire, parce que c'est un milieu très travailleur, très travailliste et assez désœuvré. Donc, les Warren se présentent là. Il y a déjà des enquêteurs qui sont sur place de la Society for Psychical Research qui se trouve à Londres et ils les rencontrent dans le jardin, leur disent, ben écoutez, nous, si vous nous laissez ça entre les mains, on pourra faire pas mal d'argent avec ça. Et les enquêteurs de la Society for Psychical Research, un type qui s'appelle Guy Lyon Playfair, que je connais bien, les a mis à la porte. Hein, il n'était intéressé, il les a mis à la porte. Et le temps qu'ils ont été là, les Warren, 15 minutes, hein, pendant que Ed Warren essayait de négocier avec Guy Lyon Playfair pour faire de l'argent, Lorraine Warren s'est entretenue avec les filles Oxen, hein, parce que c'était les deux fillettes qui étaient apparemment victimes d'un poltergeist. Elle s'est entretenue avec elles pendant 15 minutes sur la balançoire. Et ils ont trouvé le moyen de faire un film avec ça.
Hey, c'est fou. 15-20 minutes, puis on
ouais, a et dans le film, hein, tu vois les Warren, hein, Patrick Wilson et Vera Farmiga qui ouais. incarnent les Warren. On les voit dans le film, ils sont à demeure. Hein. Ils habitent littéralement chez les Oxen pendant des semaines à enquêter sur les phénomènes paranormaux. Mais la réalité, c'est qu'ils ont fait un petit crochet de 15 minutes par la maison des Oxen, puis ils se sont fait mettre à la porte.
Cette histoire est basée sur une histoire vraie.
Voilà. Alors, posons-nous la question quand on dit basé sur une histoire vraie. Quelle est la part de vrai?
C'est ça. Ça. Mais tu nous dis pas ce qu'on voudrait entendre nécessairement, mais bien ce qu'il faut qu'on entende.
Ah donc, oui, mais malheureusement, dans cet univers-là, la vérité est rarement appelée à témoigner.
Ouais. Absolument. Puis Radio X-Files, c'est demain 18h. De quoi on va parler, Christian?
Demain, c'est une émission sur le sujet des ovnis. Et faut savoir que mercredi, donc de cette semaine, la NASA a tenu un point de presse sur 3I Atlas, que certains auraient voulu nous faire croire que c'était un vaisseau spatial extraterrestre avec une invasion imminente de créatures de l'espace. Ben la NASA a un petit peu dégonflé la balloune autour de ça. Donc j'en reparle à l'émission de Radio X-Files.
Le OVNI de Montréal, c'était en novembre, hein, il me semble, en 95.
Oui, c'était le 7 novembre 90.
Oui,
ouais, voilà. Et qui est devenu un grand classique et qui a même eu droit à sa pièce de monnaie canadienne.
Ben oui.
Hein, je savais pas ça.
Hein, c'est fascinant.
Ouais, ils ont fait, le gouvernement canadien, jusqu'à date, ont frappé 20 pièces de monnaie en argent qui illustrent des histoires d'OVNI qui ont marqué la culture populaire. Ils se prononcent pas, la monnaie royale canadienne, c'est pas là pour te dire oui, les OVNI, c'est vrai ou pas vrai. Là. Mais c'est cette histoire qui ont marqué la culture populaire et l'OVNI de la place Bonaventure, évidemment, c'est l'une des histoires les plus connues au Québec. Et a eu droit à sa pièce de monnaie. C'était il y a 2 ou 3 ans maintenant.
Bien, c'est qu'il y a eu des spéculations, il y a eu des explications qui sont peut-être en lien avec la météo, mais il n'y a rien qui a été vraiment confirmé à 100 % encore.
Tout à fait. La problématique ici, c'est qu'on ne peut pas revenir dans le temps. Donc, on a l'événement du 7 novembre 90. Avec les années, plusieurs hypothèses ont été proposées. Et l'une des hypothèses qui tient bien la route, mais c'est une hypothèse, hein, je veux dire, ne tirez pas sur le messager, là. L'hypothèse qui tient bien la route, c'est que les gens auraient pu être trompés par un phénomène atmosphérique rarissime. J'insiste, là, rarissime. Et ce phénomène s'appelle des piliers lumineux zénithaux partiels. Donc, ce n'est pas simplement des piliers lumineux comme on peut en voir là, chaque hiver au-dessus d'un lampadaire ou d'une source de lumière là, très, très forte là, avec des cristaux de glace qui se forment dans l'air. Non, c'est un phénomène beaucoup plus complexe où les cristaux ne se forment qu'à partir d'une certaine altitude et donnent l'impression aux observateurs que ces lumières-là viennent du ciel au lieu de refléter des sources de lumière au sol. Donc, c'est un phénomène qui peut tromper aisément parce que, d'une part, c'est rarissime et c'est très spectaculaire. Donc, c'est une hypothèse si on la compare aux conditions météo qui régnaient sur Montréal à ce moment-là, on avait les conditions qui étaient propices à l'apparition de ce phénomène. Donc, c'est une hypothèse qui tient bien la route, mais encore une fois, j'insiste, c'est une hypothèse et je suis pas là pour dire aux gens, vous devez croire celle-là plus que celle du vaisseau spatial extraterrestre. Mais si on applique, bien sûr, le fameux principe de parcimonie en science, hein, l'hypothèse la plus simple et souvent la meilleure, ben, entre l'hypothèse d'un phénomène naturel, connu et documenté, et l'hypothèse d'un engin venu d'une autre planète, moi, comme individu, je vais choisir les piliers lumineux. Mais je n'ai pas la preuve que c'est ça qui s'est produit. Mais c'est une hypothèse qui tient bien la route.
Ah, c'est bon. Mais le week-end est officiellement lancé, M. Page.
Oui!
Ben, ça me fait plaisir. Alors, profitez-en. Bon week-end.
Merci, à demain, 18h. Bon salut, Christian. Bye-bye.
Salut.
Le retour de Radio X.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.